Bonjour. Le sujet d'aujourd'hui, la forme et l'information. J'ai choisi de parler de ces questions-là qui ont l'air a priori de ne pas avoir de connexion entre elles parce que ce sont des sujets qui sont tous les deux inclus de façon assez intimement liée dans la profession de paysagiste jardinier, c'est-à-dire de celui qui travaille à la fois l'espace et celui qui, en même temps, a quelque chose à faire et à voir avec le vivant. La question formelle se rapporte directement à l'espace. L'autre question, la communication, l'information, se rapporte à la question du vivant. Mais en réalité, tout est lié et plus complexe que ça. Ça veut dire, abordant la question formelle, on ne peut pas évacuer de la forme dans son usage le pouvoir symbolique de la forme. Dès lors, on rentre dans un processus de communication. À partir du moment où il y a suffisamment de personnes pour repérer le symbole, le comprendre dans un système culturel partagé, ça devient forcément un langage. On ne peut pas, d'une manière générale, même dans la construction de l'espace, évacuer la question de l'information par la puissance architectonique de la forme. C'est de cette façon, d'ailleurs, qu'on nous apprend à tracer les projets, les dessins, et peut-être en oubliant, en privilégiant cette dimension-là, c'est-à-dire celle de la construction de l'espace, et en oubliant le message, c'est-à-dire le sens. Quel est le sens qui est donné à la forme quand on fait quelque chose que l'on conçoit? Quel est le sens que l'on peut percevoir à travers les formes que l'on rencontre en visitant un espace qu'on ne connaissait pas? Est-ce que c'est important, cette question, ou pas? Alors, pour moi, évidemment, ça l'est beaucoup. Et je voudrais montrer avec quelques images en quoi ça consiste et quelles sont les questions qui nous sont posées avec des mises en discussion de certaines formes. Par exemple, dans mon parcours personnel, il se trouve que le carré, cette forme stable, qui est empruntée par les cisterciens pour sa stabilité, par exemple, et son symbole, sa valeur, sa apparente de stabilité, pourquoi c'est tout à coup mis en discussion, voyez. Alors, je commence par la puissance symbolique, qui est probablement ce qui apparaît de façon transversale dans toute l'histoire du jardin, avec des hauts et des bas. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tout s'est construit par rapport à ces questions symboliques et d'autres où on l'a oublié ou perdu un peu la valeur symbolique de la forme. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas retirer de l'histoire du jardin. C'est lié évidemment à ce qui est perçu comme étant le meilleur. La question du meilleur, je l'ai abordée tout à fait au début. Le jardin est un enclos, ça c'est sa définition à travers tous les langages. C'est l'idée du paradis, c'est également sa définition, et un milieu que mettons. Et en fonction de ce qu'on estime être le meilleur, et le meilleur change en tant qu'idée au fil du temps, on va dessiner quelque chose qui s'y rapporte. Cet exemple que je prends ici, qui est l'exemple du Taj Mahal, est très très connu bien sûr, mais ça se réfère directement à une culture qui est marquée par l'islam à une certaine époque de l'histoire de l'humanité et qui va représenter de façon réelle, c'est-à-dire c'est plus qu'un symbole puisqu'on le dessine, on le concrétise, mais enfin on renvoie à un mythe. On aurait pu mettre l'eau scénographiquement tout à fait autrement. La question précieuse, c'est-à-dire le meilleur ici, c'est l'eau. C'est pas forcément les quatre fleuves du paradis, c'est l'eau. C'est l'eau et toutes ces civilisations qui vivent toujours dans des régions désertiques où l'eau est extrêmement précieuse, ça apparaît comme étant très important de pointer sur l'eau. Enfin, on aurait pu mettre l'eau en scène tout à fait autrement. Là, non, comme on le retrouvera dans la cour des lions à l'Alhambra, vous avez en plus petit qu'au Taj Mahal, mais enfin la même chose, à partir d'un bassin central, les quatre fleuves du paradis, et tous les tapis, les dessins, toutes les gravures de toutes ces époques qui sont des représentations de projets ou de réalisations dans ces civilisations-là nous montrent la même chose. Ça, ce sont donc le pouvoir symbolique de la forme. Cette écriture des jardins à travers l'histoire, elle change pour les raisons que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée du meilleur changeant elle-même. Voilà donc encore une fois cette figure qui n'est pas une croix, qui est la représentation des quatre fleuves du paradis. La valeur symbolique peut être partagée, peut être plus resserrée sur une lecture qu'on offre à des initiés. L'histoire du pavillon d'argent à Kyoto est intéressante parce que là, on a tout à coup, lors des travaux, la confection de ce jardin, qui est un jardin très ancien, c'est un jardin historique, le prince en charge, commanditaire, qui voit ce tas de sable et le trouve magnifique. Et alors, pour lui, ça lui renvoie, bien entendu, Mont Fuji, pour les Japonais, c'est une affaire entendue, mais ça renvoie au domaine des dieux, c'est-à-dire à quelque chose qui est sacré. Donc il dit, on n'y touche plus. On rend cette forme parfaite et on n'y touche plus. Et aujourd'hui, on peut le voir encore, ce cône avec un sommet qui est tronqué et qui renvoie au domaine des dieux, comme on peut l'avoir l'idée du mont Meru en Inde, un panthéisme hindouiste, ou le mont Agung dans la civilisation balinaise. C'est le même genre de renvoi. Ça peut être plus, j'ose pas dire trivial, parce que ce n'est pas exactement le terme que je voudrais employer, mais moins en relation au monde de l'invisible. Ici, ces formes sont très travaillées, ce sont des pierres sculptées, organisées entre elles, pour recevoir un cours d'eau, qui en fait est un... Non, c'est au jardin du palais d'été à Pékin, dans ce qu'il reste des palais européens, c'est-à-dire des jardins européens, c'est-à-dire pas grand-chose puisqu'il y a beaucoup de ruines là. Et on voit une espèce de raffinement qui consistait à faire passer un cours d'eau dans ce méandre, cette série-là qui n'a qu'un seul flux. Donc, et celui qui va boire la tasse de thé qui circule sur ce cours d'eau se trouve au bout de la pierre. Donc ça renvoie à toute une... C'est plus qu'une mythologie, là, on est dans une cosmologie, on est dans une vision du monde avec la position de l'homme entre la terre et le ciel. Ça peut être beaucoup plus, alors pour le coup, littéral. Et dans les jardins de Jenks, dont j'ai déjà parlé la dernière fois au sujet de dimension artistique, il y a des évocations formelles qui sont tout à fait inspirées de quelque chose qui a une réalité. Là, c'est le jardin des sens, et dans tous les jardins des sens, dans tous les sens, ils les évoquent tous. Celui de l'odorat est bizarrement représenté par une forme comme ça. C'est-à-dire un peu comme un nez, si vous voulez. Ou dans l'esprit de la dynamique de la création du monde et tout ce qui peut être en rapport avec la spirale, ces formes très simplifiées et aussi très, très intéressantes sur un plan comme ça de la construction plastique, mais qui sont, comme je le disais, littérales. Donc, au-delà de la valeur strictement symbolique qui pourrait être énumérée à travers des exemples de jardins de façon considérable, je ne le fais pas, je ne fais qu'évoquer la question, il y a la puissance architectonique, la capacité formelle à construire l'espace. C'est quelque chose qui est développé dans tous les jardins, bien entendu. Sauf que dans une certaine époque, chez nous, qu'on appelle l'époque classique, ça prend une part très considérable. Ça n'enlève pas la part symbolique formelle, évidemment pas du tout, mais elle apparaît de façon plus anecdotique, plus sous forme de conte, alors que la prise de possession de l'espace, c'est-à-dire ce qui assure le pouvoir aussi bien, s'exprime avec une extraordinaire puissance, justement. Donc ça, si vous connaissez ces plans, ils sont célèbres, on peut aller se visiter ces jardins, c'est le parc de Versailles, et les canaux en croix ne renvoient pas aux quatre fleuves du paradis du tout, mais bien à la construction d'une grande perspective, des grandes perspectives qui se croisent du reste. Et cette image-là, je la montre en tant que se référant à la question même de la construction, et donc de la puissance architectonique associée à la construction. Ça va ensemble. Il s'agit d'une pierre qui est célèbre. C'est une pierre qui est connue dans le monde parce qu'elle a 12 angles et que d'ailleurs on ne sait pas dans les murs de Cusco, hein, ça se passe au Pérou. On ne sait pas comment exactement les gens qui ont construit ces palais à cette époque ont agencé les pierres pour qu'il n'y ait pas de joints visibles. Il n'y a d'ailleurs pas de ciment, il n'y a rien du tout. On peut à peine, même presque jamais, passer une lame de couteau entre ces pierres. On dit qu'ils avaient trouvé des substances à partir de végétaux qui leur permettaient de polir et d'ajuster les parois qui allaient s'agencer de façon telle que ça les rapprochait sans jour. Mais faire une pièce à 12 angles, en plus, c'est une prouesse, évidemment. Donc ce sont des images qui montrent cette, je dis, puissance architectonique, puisque là il s'agit bien d'une construction, et on est dans le langage de l'architecture à proprement parler. Ça, c'était les jardins de Marly, n'existe plus. Bon, la présence du bâti est très considérable, comme encore aujourd'hui partout quand on va à Versailles, sauf dans la partie évidemment qui est complètement boisée, mais à l'orangerie, on est dans un espace qui est pris dans la construction même du bâti, par exemple, ou dans ce qu'on appelait l'île royale et qui a disparu, dans une construction qui est réalisée, elle, à partir du monde végétal. Mais le monde végétal pris comme un élément d'architecture. Et du reste, dans la tenue des perspectives, on va aller jusqu'à tailler. Et pourquoi taille-t-on un arbre? Ça, c'est une question, parce que tout le monde pense qu'il faudrait tailler les arbres. Pourquoi? Ils n'ont pas demandé à tailler les arbres, jamais, du tout. Bon, alors, si on veut, pour des productions fruitières, on va faire ce qu'on appelle une taille de mise à fruits. Ça, c'est quelque chose de particulier. On va en effet sur une volumétrie plus rassemblée, avec une possibilité de cueillette taillée de telle façon qu'il y aura plus de fleurs, donc plus de fruits à portée de main. On va peut-être faire une taille pour d'autres raisons qui sont liées à une esthétique particulière, mais sûrement à une perspective, à un désir de construction dans l'espace. C'est ça, historiquement, qui a habitué les jardiniers à la taille, à tel point, ayant perdu l'origine de cette fonction-là, pourquoi taille-t-on, qu'on estime qu'il faut tailler, c'est tout. Non, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc, les tailles, pour ça, tout de même avoir une idée là-dessus, fragilise la plante dans le sens où ça diminue la durée de vie globale de l'arbre, même si l'arbre a une capacité à la réitération tellement fantastique que de toute façon, on sait quand il commence à vivre à partir de la graine, on ne sait pas quand il va mourir. Mais on estime tout de même qu'on le fatigue. On l'oblige à lever la dormance de bourgeons collatéraux. On le met en difficulté, forcément. C'est une évidence. Ça ne signifie pas pour autant qu'il va mourir à chaque fois, bien sûr, évidemment, sinon on ne le ferait pas. Donc là, l'arbre pris comme un élément de construction architecturale. Et on voit bien comment les perspectives, toujours aujourd'hui, sont faites à partir de ça. Une maintenance à la fois lourde et très classique. Je veux dire par là que tout le monde sait le faire, il suffit d'avoir les outils. Il y a donc tout un matériel à disposition qui provient aussi du monde végétal, non pas pris comme vivant, mais comme un élément d'architecture et de composition des formes, donc des perspectives, donc construction dans l'espace. Là, il y a beaucoup à dire et je ne m'étendrai pas trop longuement là-dessus, mais évidemment que la construction des lignes induites a beaucoup d'importance, c'est-à-dire le silhouettage en fonction des espèces que l'on utilise. Pas forcément taillées, ces espèces-là. La silhouette en troisième rangée ici, qui est en pointillé, provient d'une juxtaposition d'espèces qui sont mises côte à côte et qui ont un port naturel propre, qui est plat ou arrondi ou élancé, et qui, par cette juxtaposition, va fabriquer une ligne d'horizon singulière, une silhouette. Ça joue un rôle très important dans la construction de l'espace pour nous. Mais en plus, s'ajoutent tout à fait d'autres notions qu'on ne peut pas tout de suite intégrer, qui sont les valeurs, c'est-à-dire est-ce que c'est clair ou est-ce que c'est foncé, et ça va complètement distordre la construction dans l'espace. Est-ce que c'est à texture fine ou grossière, et ça va encore jouer un rôle supplémentaire dans la rigueur formelle que l'on désirait. Désire-t-on une rigueur formelle ? Les cas de figure qu'on peut imaginer sont énoncés ici, il y en aurait bien d'autres, naturellement, mais pour tenir une forme à partir des végétaux, chez nous, c'est-à-dire dans des climats qui sont tempérés, l'usage des végétaux à feuillage persistant, par exemple, va avoir un rôle très important. Où va-t-on les mettre, ceux-là ? Pourquoi mettons une plante qui a telle et telle caractéristique ici et pas ailleurs ? La disposition hasardeuse des plantes, ça peut être considéré comme une collection, pourquoi pas, mais ce n'est pas comme ça qu'on fabrique un jardin la plupart du temps. On réfléchit à ce qui va apparaître, y compris dans la période où toutes les feuilles sont tombées. Donc ça donnait une série de cas de figure possibles, avec dans les lignes induites une série extraordinairement variée de possibilités aussi, et qui tient compte de toutes ces formes juxtaposées entre elles, pouvant faire apparaître des aplats, des silences, des dynamiques. Tout ça n'étant pas du tout anodin, si on aborde, par exemple, une question qu'on n'aura pas tout à fait l'occasion d'aborder au cours de ces différentes séances, qui est la pression sur le corps, c'est-à-dire qu'on réagit en fonction de ce qui se trouve autour de nous, avec nous. Il n'y a pas que la lumière, il y a les formes, il y a le rythme. Par exemple, une série de peupliers élancés, disposés à équidistance, incite à marcher un peu plus vite qu'une série d'arbres disposés de façon aléatoire et qui ont un port différent. La couleur joue un rôle très important, qui est encore une distorsion de toutes les... De tout ce qui nous apparaît formellement, et les valeurs, comme je le disais aussi tout à l'heure. Donc ces combinaisons-là peuvent s'envisager, et c'est amusant de concevoir les projets aussi de cette façon, même si c'est illusoire de penser qu'on a la maîtrise dans le temps de ces propositions-là. Parce que bien entendu, les espèces, même si on les connaît très bien, elles font ce qu'elles veulent. À un moment donné, elles vont pousser un peu plus, un peu moins, etc. Donc c'est le réajustement du jardinier pour obtenir ce qu'il veut, que l'on ait dans le temps, est évidemment très important. Donc la construction des clairières, des lumières, des formes déduites, des fenêtres, etc., et le jeu des valeurs. Le jeu des valeurs est certainement ce qui altère le plus le sentiment des perspectives. Et c'est quelque chose dont on parle peu, mais on sait bien que tout ce qui est clair dilate l'espace et tout ce qui est foncé le rétracte. Par conséquent, ce qui est foncé recule dans l'espace et ce qui est clair avance. Et même si ces éléments sont sur le même plan, on a une lecture très très différente et c'est ça qui accentue, accélère ou ralentit des perspectives. Or, dans un espace qui est petit, on peut avoir intérêt à jouer avec ces éléments-là parce que ça exagère des caractéristiques que nous ne pourrions pas réaliser compte tenu de peu de profondeur réelle, c'est-à-dire géométrale, autrement dit les distances métriques. Donc là, on peut s'amuser à faire des simulations, bien entendu, et construire des perspectives, mais qui sont très liées aux coulisses du théâtre. Les Anglais font ça très bien. Les jardins fin 19e et 20e anglais importants ont très très souvent ces jeux de décors où on voit apparaître, je pense à Sissinghurst particulièrement, qui est un lieu où on a des constructions à la fois en dur et à la fois végétales qui se lisent les unes derrière les autres dans une perspective choisie et qui, sur des distances très courtes, précisément accélèrent ou ralentissent plutôt, c'est-à-dire approfondissent la perspective. Utiliser cette chose-là dans toutes les cultures. Et c'est pour ça, je montre des possibilités, mais que je montre vers la fin cette image que j'ai trouvée il n'y a pas si longtemps dans un ouvrage japonais où on peut voir que c'est une préoccupation qui est commune un peu partout. Mais celle-ci, je reviens dessus, est importante dans la composition que nous recherchons au sein des mélanges des plantes, au sein de la fabrication de nos formes. Comment les rendre convergentes et non pas dissonantes, qu'est-ce qu'on utilise comme combinaison des végétaux à feuillage pérenne et à feuillage caduc, ce sont des choses assez fines et d'autant plus compliquées qu'on a une palette considérable. Ce qui est à notre disposition pour réaliser ces choses-là est énorme. Alors maintenant, je vais parler au fond de nos aventures formelles, enfin des aventures en relation avec les formes à travers des projets et des réalisations, et certains vous en connaissez. Le parc André Citroën, dont j'ai déjà parlé, et j'en ai parlé la dernière fois, notamment pour la question du partage de la signature, a une forme particulière. Il est extrêmement dessiné dans son aspect, dans sa forme centrale, enfin dans sa perspective centrale. Il est dessiné aussi dans le cadre, lequel cadre a une épaisseur importante et contient, je dirais, l'essentiel des jardins. L'espace central est donc assimilé à une perspective. Et pourquoi existe-t-elle ? On aurait pu dessiner tout à fait autrement. Et d'ailleurs, je montre immédiatement quelques images des concours qui avaient eu lieu à cette époque-là, hein, où les propositions, ça c'est une proposition d'une autre équipe française, n'avaient pas pris ce parti d'une tension orthogonale à la Seine. Il se trouve que notre équipe, mais aussi l'autre, je vous ai expliqué que nous étions assemblés à deux équipes, avaient un gros point commun, indépendamment de la construction des espaces dans le détail aussi qui existait, c'était l'axe central qui se réfère à la construction des grands parcs à Paris sur la rive gauche de la Seine. Et tous ont une perspective centrale forte, qu'il s'agisse du Jardin des Plantes, de l'Esplanade des Invalides, qui n'est pas un jardin, mais qui est un vide ordonné, du Champ de Mars, qui n'est plus un Champ de Mars, qui est un parc, et alors le parc André Citroën, qui arrivait comme un vide, une espèce de dent creuse, dirait-on aujourd'hui, dans un tissu qui était une friche industrielle dont une partie devait être construite, ce qui a eu lieu, et une autre, c'est à peu près moitié-moitié, destinée à être, alors on ne savait pas quoi d'ailleurs à cette époque, elle pouvait être un territoire pour les Jeux Olympiques. Une autre fois, ça a été pour une exposition universelle et finalement, ça a été abandonné et il y a eu le concours pour le parc. Et ces deux équipes, donc, ont décidé qu'il était très important de se référer à l'histoire du tissu parisien. Ce n'était pas du tout une obligation. Hein. Donc, cette forme rectangulaire importante est due à ça dans l'axe. Vous voyez ça, je montre trois projets très différents les uns des autres. Celui-ci est une équipe belge et celui-ci une équipe anglaise. Et aucune de ces trois-là que je viens de vous montrer ne s'est référée au discours que je tiens là sur la question formelle de l'espace central au parc André Citroën. Ça ne veut pas dire qu'au-delà de cet espace-là très construit, très architecturé, il y ait un abandon total du langage formel au sein des jardins. Là aussi, on retrouve cette question. Il y a d'ailleurs, et ça existait dans beaucoup de projets, dans ce parc, une progression de l'idée de nature vers l'idée d'architecture. En regardant dans cette direction-là, on est plus vers la direction, l'espace architectural. Ça se voit très bien, si j'arrive à vous le montrer. Oui, il y a une faiblesse quelque part, hein. Peut-être dans la... Voilà, alors vous voyez que tout ça est très construit. Hein. Bon, je vais y aller à la main, ça ira mieux. Tous ces espaces-là sont destinés à cadrer complètement la perspective, ça c'est taillé. Mais là, on a un autre langage, c'est également taillé, c'est en colonne, c'est ce qu'on appelle le péristyle végétal, et entre les deux serres, le péristyle aquatique. Il y avait donc quelque chose qui se référait uniquement au langage de l'architecture. Le péristyle d'eau qui est connu, qui a été copié d'ailleurs de nombreuses fois, et le péristyle végétal qui continue dans l'eau à certains endroits. Mais rythmant les jardins sériels, la construction formelle est très forte puisqu'elle est même de l'architecture à proprement parler. Ça, ce sont les coursiers. Puis il y a quelque chose d'autre qui se situe à l'intérieur. Dans les jardins sériels, il y a d'autres rapports formels Et ça renvoie les dessins, chacun d'eux, à des, disons, des lectures, des renvois littéraux au symbole de l'eau. Alors, je vais vous expliquer. Puisque notre eau, scénographiquement parlant, était placée tout autour, de même que les jardins. Il y a un cadre d'eau, il y a le canal, il y a le péristyle d'eau, tout ça est autour de l'espace central qui, lui, est vide. Il était question aussi, de mon point de vue, de pouvoir continuer à parler de l'eau, y compris dans les jardins qui sont situés le long de ce cadre. Et par exemple, là, on décline à travers chacun de ces jardins sériels une certaine idée de l'eau. Ils sont connus pour leur couleur, ils sont connus pour les renvois symboliques aussi, là, pour le coup, à tout un langage sur l'alchimie, avec la transformation du plomb en or, enfin, il y a toutes sortes de choses comme ça. Mais ils sont en rapport, le dessin, qu'est-ce qu'on pouvait montrer là ? Ils sont en rapport direct avec certains états de l'eau. Donc là, le premier des jardins qui parle de ça, c'est la goutte d'eau. Là, c'est une goutte qui tombe d'une pergola. Il y a vraiment de l'eau qui arrive. D'ailleurs, c'est le seul où il y a de l'eau qui arrive. Et ça tombe sur une vasque. C'est le jardin bleu. Et ça génère éventuellement une rivière ou un cours d'eau qui est représenté par les végétaux. Donc ça, c'est le jardin bleu. Les formes ne sont pas anodines. Ça se transforme en un vrai ruisseau. Et ça, c'est le jardin orangé. L'eau n'y figure plus, mais elle est représentée d'une certaine façon avec des plages qui deviennent une cascade. C'est le jardin rouge qui finit en rivière. Après, on l'oublie parce que le dernier des jardins sériels, finalement, se réfère, il n'y a plus d'eau, se réfère au soleil et à un canon solaire. Bon, on s'explique que l'eau s'évapore, ça revient après à l'autre bout du jardin, vers le jardin en mouvement. Il y avait cette idée-là. Donc chaque forme apparaît par rapport à une histoire qui est désirée, que l'on veut raconter. C'est-à-dire qu'il y a du sens. Ce n'est pas au hasard, complètement. Ainsi, pour toutes sortes d'autres constructions, et j'ai choisi pour illustrer ce propos d'aujourd'hui des constructions formelles assez volontaires, et qui sont souvent liées à l'histoire. Par exemple, ici, face à une construction du XVIIIe siècle qui s'appelle l'Hôtel d'Evreux, on est près de la place, près du boulevard des Capucines et la place Vendôme, comment ne pas se référer à l'ordre classique ? On est dans un espace marqué par une construction XVIIIe siècle. Il y avait d'ailleurs des broderies simplement sur un seul plan. Et il a été question de créer trois niveaux en descendant pour gagner de l'espace d'ailleurs dans les bâtiments eux-mêmes. Et donc le projet a consisté à faire quelque chose qui est une série de terrasses reliées entre elles par un lien visuel. Cet engazonnement qui associe les trois niveaux n'est pas utilisé pour le cheminement. On part d'une broderie très classique et on descend sur un talus qui l'est moins, mais on ne peut pas l'emprunter. Et qu'on est obligé de passer sur un bord, traverser un mur, accéder à un autre petit jardin qui appartient au même propriétaire, c'est une banque. Ça arrive. Et ensuite, on redescend à travers une masse végétale. On accède à la terrasse intermédiaire, puis on redescend à nouveau. Et donc, il n'y avait, à mon avis, rien. Voilà les chicanes par lesquelles on est obligé de passer pour ne pas s'accidenter dans la descente du talus, traverser les jardins, arriver dans l'espace intermédiaire, puis le dernier, qui est un bassin carré. Et il n'y avait rien de plus logique dans le principe de liaison que ce fil vert. Et il n'était pas dans mon intention de faire une séparation de ces trois terrasses. C'était vraiment le contraire. Il s'agissait de les lier visuellement et mécaniquement, sauf qu'on n'utilise pas forcément le gazon pour marcher. Donc ça se termine dans un bassin qui est carré, d'ailleurs. Ce carré-là ne m'a pas posé de problème. Il n'a pas été discuté. J'expliquerai pourquoi après les autres l'ont été. Et ce qui a posé un problème, à mon sens, c'était le fait que l'eau était une eau traitée. Il fallait qu'elle soit propre. Mais... Voilà, donc la première grenouille qui est tombée dedans est morte. Et j'aurais aimé qu'elle puisse vivre, mais non. Donc ça, c'est un tout petit jardin qui est censé être public, mais auquel le public, finalement, n'a pas accès. Et ça fait partie de ce mystère. Ça existe aussi, ça. Donc très formel aussi, très dans son dessin et sa réalisation. C'est pour ça que je choisis comme illustration aujourd'hui. Ce deuxième exemple, lui aussi, met le carré en scène et il y a une logique de composition qui vient du bâtiment lui-même. C'est un bâtiment cistercien. C'est l'abbaye de Valloire qui est située ici, Valloire dans la Somme. On est donc près d'Abbeville. Et le syndicat de Ponthieu-Marcanterre à l'époque passe commande d'un parc sur les 10 hectares. Le principe a consisté, c'était ma proposition, à placer dans le bout d'une perspective, on ne peut pas aller au-delà, un carré qui est similaire à celui du cloître, avec les mêmes proportions entre les piles ici minérales et là donc végétales. Ça deviendra un cloître végétal. On en voit le dessin formel ici, vous voyez, classique. En revanche, tout ce qui est au-dessus et en dessous sont des espaces qui accueillent toute une collection botanique, et celle-ci n'avait pas, à mon sens, le lieu de se trouver dans cet espace-là, dont la composition devait être très rigoureuse. Pourquoi ? Parce que l'abbaye de Valloire a brûlé, au XVIIIe, a été reconstruite. L'abbaye cistercienne, elle est donc très antérieure au XVIIIe siècle, mais enfin, à ce moment-là, a été reconstruite sur les canons du XVIIIe. On est sur une façade très ordonnée. Il était donc naturel que, à mon sens, comme pour l'hôtel d'Evreux que j'ai montré tout à l'heure, que l'on fasse quelque chose de construit, régulier, avec une perspective centrale. Sur ces simulations, les talus aussi ont un rythme. Ici s'installera plus tard un verger avec une roseraie. C'était d'ailleurs l'ancien potager, cette partie-là. Il n'y avait plus rien. Hein. Et les seules discussions... Dans les bâtiments historiques, nous avons des discussions un peu obligées avec les architectes des monuments historiques qui, eux, ont des idées particulières hein, qui se réfèrent à l'histoire de façon très, très rigoureuse. Et il était question pour eux que tout un axe ici soit en tilleul. Rien ne disait que c'était des tilleuls et nous sommes battus sur une essence. J'ai proposé des prunus. Aujourd'hui, ce sont des prunus, tout va bien. Et les tilleuls, là, en voilà d'ailleurs un. Il est à gauche ici, c'est un grand arbre, il était existant. Ils sont énormes et une allée de tilleuls à cet endroit-là aurait complètement transformé l'espace et amenuisé beaucoup le jardin. Le cloître végétal, donc proposé de cette façon-là, et renvoyé à droite et à gauche les collections, ainsi que dans le talus aussi. Avec le principe d'un index qui fait d'espèces qui toutes ont à voir avec les îles dans lesquelles thématiquement se retrouve la collection botanique. C'était un pépiniériste, M. Cousin, qui avait amassé des espèces qu'on ne trouvait pas en Europe à l'époque. Donc c'était une collection un peu rare. Voilà la réalisation. Quelques années après la mise en place de ce chantier, là, il y avait autrefois une pente ici. Donc l'aspect formel de ce jardin, il est très rigoureux, très visible immédiatement, alors que dès qu'on s'en écarte, on rentre dans un espace qui n'a plus rien à voir. Et l'alphabet, le langage, tout le vocabulaire utilisé à partir de ces espèces était très établi. Ça se complique, évidemment, en ce qui concerne la question rigoureusement de la forme, n'est-ce pas ? Dès lors qu'on aborde les textures et les couleurs, mais enfin, c'est typiquement la richesse du monde végétal que de s'ajouter, si vous voulez, ces choses-là s'ajoutent les unes aux autres. Puis on entre dans un espace beaucoup plus organique au niveau de son dessin pour pénétrer les collections qui sont notamment celles qui se trouvent liées à l'eau dans la partie basse et toutes les autres thématiquement assemblées sur des aspects alors phénotypiques et non pas de classification systématique des plantes. C'est-à-dire, par exemple, mettre ensemble des plantes dont le bois, en hiver, par exemple, puisqu'il est beaucoup plus visible en hiver, a quelque chose de très singulier. C'est le bois d'hiver, les îles d'hiver. Elles avaient toutes un rapport avec l'écorce, la qualité de l'écorce, ou des épines. Il y avait d'ailleurs une île qui s'appelle, il y a toujours une île, l'île des ronces douces. C'est toute une série de plantes qui ont des épines très intéressantes. Les épines, vous savez, ce sont des feuilles transformées et qui, malgré leur couleur, celle-ci est rouge. C'est un rosier qui s'appelle Omeyensis pteracantha, qui est magnifique, un rosier chinois. La lumière se prend là-dedans, mais enfin, c'est quand même un organe chlorophyllien, malgré le rouge. Il y a aussi une fonction chlorophyllienne à l'intérieur. Peu importe, ça, ce sont des détails physiologiques, mais disons, si vous voulez, que c'était pas une collection, mais qui n'est pas remise ensemble par des aspects systématiques liés aux familles botaniques, telles que la classification systématique le dit. J'en parlerai la semaine prochaine. Mais c'est plutôt remis ensemble par convergence d'aspects. Là, on trouvait toutes les plantes de l'eau, comme je vous disais, le long d'un riverel, c'est-à-dire un canal qui a été reconstitué à partir de la dérivation de l'Oti, un affluent de la Somme, mais qui n'existait plus. Il a fallu vraiment le remettre en fonction parce que toute cette amenée d'eau avait été totalement condamnée par les exploitations agricoles alentour. C'est dans ce même jardin qu'on retrouve le jardin Lamarck, qui n'a absolument rien à voir dans sa composition formelle, justement. Il est d'ailleurs complètement à l'écart, et on ne peut pas le voir ensemble, parce que ce serait cacophonique. Ça ne s'organise pas du tout avec la construction très rigoureuse qui se situe frontalement à l'abbaye. Et donc, ça, c'est, comme j'en ai parlé la fois d'avant, je ne reviens pas dessus, simplement pour dire que chacune des trois grandes pensées, disons, il y en a plus que trois, de Lamarck, sont résumées à travers trois formes similaires, trois rectangles, l'une qui porte le nom de chambre de la biologie où se trouvent les plantes les plus archaïques et les plus modernes ensemble, une autre, la chambre de l'hydrogéologie, qui est l'érosion, où il y a là, pour le coup, c'est une mise en place. Il n'y a pas eu de construction formelle en dehors du cadre. Après, c'est une mise en place artistique, on va dire. Et puis que celle-ci que j'ai montrée, la chambre des nuages, qui est un reflet du ciel. Alors, l'exemple suivant est un exemple où il a fallu repenser la forme. Et là, ça a été un long travail qui est fait avec l'architecte Antoine Debré, qui avait en charge le secteur sauvegardé de la ville de Blois, qui est une ville très historiquement très chargée, avec son château, avec l'emprise des anciens jardins, dont j'ai montré une image, je vais remontrer ici lors de la leçon inaugurale, d'Androuet du Cerceau, et les jardins s'étalaient beaucoup plus loin, autrefois. Et ce château étrange, dans le sens où il a trois façades complètement distinctes, l'une qui est Louis XII, l'autre qui est François Ier sur ce côté, la troisième Gaston d'Orléans, avec, quand on les regarde un peu attentivement, trois écritures très très différentes. Une qui est un peu plus hermétique, bien que Renaissance, l'autre qui est franchement Renaissance italienne avec sa double peau, et puis sa galerie, et la troisième qui est construite rigoureusement, classiquement, on va dire. Et donc, voilà la façade François Ier. Le jardin de Blois, comme ceux d'Amboise, ont été les premiers à se dessiner sur une immense surface à l'extérieur de l'enclos même du château. Ça veut dire en situation de vulnérabilité. Oui, on commençait à sortir des murs. Ça a été des moments de l'histoire des jardins très, très importants. Et ça, c'était le jardin Louis XII, avec ses galeries ici. Et au XIXe siècle, une route traversante a totalement coupé toute cette géométrie, l'a transformée complètement. Voilà la vision en plan à cette époque, comment les choses se sont dessinées au XIXe siècle. Ça, c'est l'avenue Jean Legret. Une autre avenue va se créer ici. Voilà le pavillon Anne de Bretagne qui faisait partie de cet ensemble de jardins et est resté, il existe toujours, ainsi que le bastion du roi. Mais la géométrie a complètement été bouleversée. Le château, Gaston d'Orléans, François Ier, Louis XII, et quelques parterres peu signifiants, on va dire vrai. Et finalement, après encore une autre rue, ici il y avait d'ailleurs également une rue qui a été ensuite utilisée dans le projet, eh bien, l'espace restant, un reliquat de jardin du XIXe, un autre, qui arrive un peu comme une espèce d'îlot perdu. Tout ça était sur les anciens jardins historiques. Le projet a consisté, là malheureusement c'est très pâle, on ne voit pas trop, mais en une construction utilisant cet espace-là qui, à partir du moment où l'école Victor Hugo a été créée, une école dont vous voyez le pointillé ici, est devenue un espace appartenant à un jardin de l'école, avec d'ailleurs un parking, des voitures, enfin... Bon. Le bastion du roi, le château est ici, et cet espace-là, c'est ce qui a été réalisé. C'est pour ça que je n'ai refait que ce dessin. La proposition initiale est celle-ci. Ça consistait, et le projet a été formellement accepté en Commission nationale des monuments historiques, donc c'était amusant, parce qu'il y avait, dit-on, tout comme des gamins dehors, avec Sudreau, le maire de l'époque, Antoine Debré, l'architecte, et moi, attendant le jury, qui a décidé, oui, on va enlever l'école Victor Hugo et faire ce projet-là. Pourquoi enlever l'école Victor Hugo? Eh bien, parce que depuis là-haut, en enlevant ce bâtiment, qui est pas mauvais, hein, il faut dire qu'il tient bien, quoi. Bon, mais enfin, il est une erreur urbanistique totale. On avait dit pourquoi. On dit que là, à partir de ce point haut, on va voir la partie historique en contrebas avec l'école, l'église qui était l'église des Jésuites et qui est devenue l'église Victor Hugo, le jardin Victor Hugo, la façade, enfin bref, toutes sortes de choses très intéressantes. Et donc ça avait été accepté. Puis la mairie a changé et est arrivé Jacques Lang, que j'ai rien contre lui bien sûr, mais enfin il nous a dit non, il faut changer, on va garder l'école Victor Hugo, ce qui était assez sage, enlever un bâtiment. Mais il a fallu changer complètement ce projet. Or, ce projet, il avait quelque chose de très spécial. Il disait, eh bien, il y a trois façades au château. Une qui se réfère à une époque où les jardins étaient dans un préau avec une écriture imbriquée, où se mêlaient les fleurs, les fruits, les légumes, tout ensemble. Une autre où on est dans la Renaissance et la dissociation. Et alors... l'idée était d'avoir une sorte de galerie avec des éléments dissociés. On a réalisé ça, d'ailleurs. Et une troisième, le Gaston d'Orléans, avec un grand jardin et avec une perspective centrale, une lumière, disons, centrale, plus qu'une perspective, enfin, c'est pas là, et un système de jardin dans l'épaisseur de chaque côté de cette lumière. Ça, c'est la partie qui n'a pas été réalisée, d'ailleurs. Donc, il y avait quelque chose qui se référait au temps historique avec une écriture contemporaine. Mais cette forme devant changer... la question de l'imbrication, de l'écriture imbriquée se reposait comment allait-on le faire, alors que là, ça se positionnait de nouveau comme un préau, comme un cloître plutôt, avec des palissades de fruitiers, des fleurs, des fruits, des légumes organisés là-dedans. Et encore aussi des végétaux tout autour, bien entendu, un jeu d'eau, enfin tout un système. Finalement, le projet proposé et qui a été réalisé pour cette partie-là, et le suivant, le système d'imbrication a été réalisé, on peut dire, sur un mode de tapisserie, c'est-à-dire que les fleurs, les fruits, les légumes, eh bien, on les mettrait ici, entre des laits d'ifs taillés. Vous voyez, tout ça, c'est un langage formel très important. Et puis, se référant, en tout cas respectant la dynamique et la forme, la ligne, indiqué par le bâtiment de l'école Victor Hugo elle-même. Donc on n'était pas en contradiction avec cette architecture, on la respectait. Le reste ne changeait pas. Et finalement, un élément qui se trouvait à l'intérieur dans le projet initial, on pouvait le déplacer, c'est le jardin des simples, et en particulier des simples zodiacaux, c'est-à-dire qu'il y a des simples, vous savez, ce sont des plantes avec lesquelles on fait des choses simples, des tisanes par exemple. Et il y a des espèces qui se réfèrent au chaud humide, au chaud sec, au froid humide et au froid sec à chaque angle. Et donc, on les retrouvait ici au lieu de les imbriquer dans le parti pris initial. Donc, c'est complètement différent. C'est formellement complètement différent. On ne peut pas faire plus différent qu'un enclos carré avec des choses qui s'entremêlent au milieu que des lignes parallèles entre elles. Vous voyez, donc, c'est finalement ce qui a été réalisé. Voilà le parking, car tout ça c'était justifié par la création d'un parking important pour accueillir les visiteurs de Blois. La réalisation, au bout d'un certain temps, la construction de ce parking, sa couverture, tous les aspects techniques sont tout à fait importants. Je ne vais pas les détailler là, ce serait beaucoup trop long. Et puis donc, ce jardin avec ses laits d'ifs en vague et les végétaux divers, alors pour le coup, expliquant bien cette diversité, mais cette imbrication aussi, entre les ifs. Cet exemple-là est très important puisque là, il a fallu changer la forme pour tout à fait d'autres raisons. Nous sommes à Lille, le parc Matisse. L'île d'Herborance, qui est la proposition faite au nom du tiers paysage, j'en ai parlé dans une leçon réservée à ce thème, était carrée, soclée à 7,50 m de hauteur, ça s'est resté, correspondant au sommet d'une colline qui occupait la totalité, colline de gravats, issue de la construction de la gare TGV. Quand nous avons fait cette proposition avec l'équipe empreinte, qui est l'équipe de paysagiste de Lille et l'artiste Claude Courtecuisse, ça a été accepté puisque c'est le sujet qui a été pris au concours, mais rapidement, les architectes des monuments historiques nous ont dit « c'est pas possible ». Alors nous avions prévu toutes sortes de cheminements, de circulations, on pouvait même monter d'ailleurs à l'époque, dans le principe, hein, sur cette île, mais en n'allant pas mettre les pieds sur l'île, puisque l'idée, c'est de laisser la nature faire toute seule, hein, vous savez, sur ce sommet, mais on pouvait aller le voir, et on était dans des galeries pour observer ce qui s'y passait. Donc c'était ça le principe. Et il y avait des modes d'accès, etc. Mais on nous a dit, voilà, là, c'est le langage militaire. Vous utilisez un langage militaire. Voyez comment la forme a une importance telle que ça peut renvoyer pour certains, en tout cas, à des questions tout à fait précises. Or, il n'était pas question pour eux que nous ayons le droit d'utiliser un langage militaire. En effet, il y avait une demi-lune, qui est une avancée des systèmes fortifiés de Vauban. Tout l'île était fortifiée, bien entendu. Il reste aujourd'hui plus qu'un endroit qui s'appelle le Bois de Boulogne, qui est sur la partie ouest, sud-ouest de l'île. Et là, nous sommes au nord, la ville de l'île fortifiée. Donc, on nous avait dit... Ça, vous n'avez pas le droit, puis c'est beaucoup trop près. Enfin, vous voyez, l'île d'Herborance était là. D'Herborance, nom d'une forêt en Suisse, qui, au moment où nous faisions le concours, s'est effondrée. Et comme le propos est de faire revenir une forêt, c'était intéressant, étant donné que c'est une forêt primaire, mythique, etc., chantée par le poète Ramu, enfin bref, de se servir de ce nom. Et ça s'est gardé, elle s'appelle toujours l'île d'Herborance, hein, ici. Donc on nous refuse ça, et il y a eu un an de discussion, pour une forme. Et ce n'est pas rien, la forme, mais qui est aussi un langage, hein, bien sûr. Et c'est Claude Courtecuisse qui nous dit, oui, mais voilà, il existe une île dans le monde qui s'appelle l'île Antipode, et qui est aux antipodes de la ville de Lille. Si on proposait cette forme-là, et nous avons proposé cette forme-là, qui a été tout de suite acceptée, parce que ça, ce n'est pas militaire. C'est un sanctuaire végétal, mais ce n'est pas militaire. C'est un endroit où on va très mal, très difficilement. C'est au sud de la Nouvelle-Zélande, c'est très compliqué. C'est observé scientifiquement, donc c'est le même statut que nous. On n'y va pas, on ne peut pas l'atteindre, mais on l'observera une fois par an scientifiquement, et voilà. Donc ça s'est soldé de cette façon, vous voyez. Une histoire de forme. Le projet de l'île d'Herborance, le parc Matisse, hein, qui fait 8 hectares, et le sommet de cette île étant inatteignable, il faut prendre une échelle pour y aller. Après, on a été un peu embêtés, vous voyez, avec des choses qui sont venues très près de cet objet-là, qui a mis en péril le sujet même, parce qu'il y a eu des plaintes, je crois, d'avoir abordé cette question-là, de la part des habitants le long de l'habitant là, voyant se développer une friche sous leurs yeux et trouvant le sujet un peu dur. Et de ce fait, la ville avait estimé qu'il fallait cacher l'objet en question, d'où les arbres qui ont été plantés là, qui n'étaient pas prévus par nous. Et récemment, on a obtenu qu'on allait les couper. Donc, les choses évoluent. Et le paysage au-dessus donc, est fabriqué par la nature. Alors, ça a beaucoup poussé maintenant. Ça fait longtemps que ce projet est en route. On pensait qu'il ne verrait jamais le jour. Hein. Il existe bel et bien. Donc, voilà l'île d'Herborance telle qu'elle est avec la forme de l'île Antipode aujourd'hui. Ces arbres qu'on va espérer enlever là. Le jardin qui est géré, lui, de façon assez libre, comme un jardin en mouvement, et qui fait 8 hectares, avec des poches, des clairières, une série de lieux où on peut se tenir. Cette forme-là que j'avais montrée pour d'autres raisons, elle n'est pas anodine, elle a un sens très particulier, c'est un bassin d'herbe, c'est à l'île de la Réunion, c'est la Drac. Or, c'est compliqué de piliers, que l'on voit ici au centre. Ce n'est pas du tout un jeu formel ou esthétique. Il s'agissait d'en faire quelque chose d'esthétiquement acceptable. Mais c'est simplement parce que la commande était de pouvoir s'installer sur la totalité de cet espace à partir du moment où il y avait des réceptions à la DRAC le soir. La nuit tombe à 6 heures là-bas, sous les tropiques, et donc j'ai fait le projet d'une sorte de fontaine d'herbe, donc une plante anodine mais importante, et qu'on scénographiait comme une star dans cette fontaine avec de la lave taillée. Là, l'artiste tailleur de pierre Éric Bernard a fait un magnifique travail, et les piliers. Et les piliers, pour des raisons très précises, c'est qu'il s'agissait de couvrir, et d'ailleurs ça fonctionne comme ça, la totalité de cette fontaine pour les moments de réception. On aurait pu choisir d'autres formes, mais il s'agissait pour moi d'arriver à quelque chose de simple, parce que ça pourrait être un puzzle, par exemple. On imbrique les pièces du puzzle, ça aurait été un jeu de piliers différents et des formes différentes, ce n'était pas ce que je désirais. Donc ça peut, on peut retrouver un autre sol complètement qui permet d'utiliser la totalité de la surface de la cour de ce tout petit jardin. C'est un tout petit jardin. Voilà. Donc ça, c'est sous un climat tropical où les matériaux sont la lave et le corail, mais on n'a plus le droit de l'utiliser. Ça a été compliqué de faire des stabilisés, par exemple, là-bas. Or, la question du stabilisé avec cette matière et ces couleurs chaudes est très importante parce que c'est dans le langage du jardin. Une forme rare, un ovale, si on a peu l'occasion de faire ça. Je n'ai que cette image, d'ailleurs. C'est un cimetière réalisé avec l'architecte Christian Enjolras à Saint-Avold. C'est l'extension du cimetière civil derrière le cimetière militaire. Et là, il y avait des clairières. Et la tempête de 99-2000 a un peu changé les choses, mais bon. En tout cas, ici, on pouvait en faire une. Dans d'autres endroits, on pouvait en faire d'autres. D'ailleurs, il y en a d'autres qui ont été faites. Et voilà tout le travail de Christian Enjolras et la proposition de ces clairières en forme ovale. Je n'ai jamais eu l'occasion de refaire des formes comme celle-ci. Ce qui nous a un peu surpris, c'est qu'un des arguments qui a permis de faire passer ce projet, c'était que, bah oui, comme ça, on pourra mettre dans chacune, parce que les clairières sont séparées, on pourra mettre des confessions différentes. Ce n'était pas du tout l'objet, hein, mais comme ça, la séparation des choses. Hein. Donc j'en viens à l'information, mais au sens, la forme et l'information dans le monde vivant, c'est quelque chose de complexe et je ne vais pas en faire l'énumération. Je voudrais évoquer simplement quelques cas avant de terminer sur le parc de Montsartou qui conclut. C'est d'une si grande richesse qu'on ne peut que jamais que s'étonner. D'ailleurs, il y a des livres entiers qui ont été écrits sur ces inventions de la nature. Les architectures animales en font partie, bien sûr. Ça, c'est une sorte d'architecture en creux, on pourrait dire, comme souvent les animaux qui procèdent par piège. Il y a des crustacés qui font ça, il y a des araignées qui font ça, et d'autres. Bon. Donc, toutes ces formes sont inspirantes, mais elles ont surtout une signification. Ça veut dire qu'elles correspondent à un mode de communication, un langage. Celui qui voit ça, qui peut être donc un insecte, un animal, un oiseau, il a une information. Et cette information est d'autant plus importante que la forme en tant que construction dans l'espace, dans le monde organique, elle est pratiquement, c'est plus une confusion et un entremêlement qu'une forme lisible. Ça n'empêche pas que les animaux aient des codes de lecture sur les formes visibles. Par exemple, les abeilles voient certaines formes et se repèrent à elles. Il y a eu les expériences de von Frisch, en parle très très bien. Ils voient les couleurs aussi. Les couleurs sont un système où n'en voient pas. Par exemple, les abeilles ne voient pas le rouge. Elles voient dans les ultraviolets, elles se repèrent tout à fait autrement. Elles ont un langage extrêmement particulier qui est une information très précise pour ses congénères. L'angle avec lequel elles vont faire la danse en rond ou la danse en huit va donner, par rapport au soleil, hein, va donner la distance à laquelle il faut qu'elles aillent pour aller chercher la source de nectar dont elles ont besoin. Donc tout ça, ce sont des langages de l'ordre de l'information et je me réfère, pour comparer ça à la forme, à ce que dit Henri Laborit, hein, qui est un grand biologiste, pour moi un peu révolutionnaire dans son esprit, quand il dit que pour la vie, la forme, c'est l'information, que le vivant reçoit l'information, le complexifie et le renvoie. La complexifie et la renvoie. Ça, c'est une façon de procéder qui, bien entendu, n'est pas complètement éloignée de la nôtre, mais nous semblons à côté de ça, c'est-à-dire de cet extrême raffinement et surtout de cette extrême complexité, semble un peu rustre, si vous voulez, notre organisation formelle à nous. La diversité des formes est très considérable, mais elle correspond aussi à des raisons très précises. Vous voyez, ça, ce sont des pollens qui sont tous très, très différents. Mais ce sont des clés d'entrée. Le pollen, il est destiné à passer dans le pistil. Ce pollen-là ne pourra pas rentrer dans un pistil d'une autre plante qui n'appartient pas à cette famille, à ce genre, ou même à cette espèce, puisque la diffusion de l'espèce, c'est lié à la fécondité et à la possibilité des êtres de se reproduire à plusieurs générations. Donc ce sont des clés d'entrée, et qui formellement sont toutes différentes. Les systèmes de communication visuelle, d'approche, de piégeage aussi, sont très très élaborés. Dans la famille des orchidées, on a un nombre de plantes qu'on appelle l'orchis mouche, l'orchis abeille, enfin vous les connaissez, parce que ça ressemble de façon très étrange à ces insectes, et d'ailleurs ça les attire, et ça les attire pour des raisons de pollinisation, pas toujours d'ailleurs, parce qu'il y a certaines orchidées qui ont des aires de répartition, et les insectes concernés, qui se rapprocheraient le plus, ont d'autres aires. Mais quelquefois, elles se croisent, et là, ça marche. Là, on s'aperçoit qu'il y a une vraie convergence. Tout dépend historiquement de comment se sont installées à la fois l'orchidée sur le territoire et l'insecte en question. Il y a des modes de communication qui s'adressent à tous, hein, tout le temps, qui tiennent aux dispositions des formes et des couleurs. Par exemple, ici, cet ensemble de lépidoptères est organisé comme un camaïeu de couleurs. À partir d'une danaïde, la danaïde, une famille de papillons migrateurs, hein, vous savez, qui va du nord au sud, il y en a partout des danaïdes, mais en Amérique du Nord, ça va du Canada au Mexique, ça remonte, c'est complètement extraordinaire. Mais enfin, les danaïdes sont poisons pour les oiseaux. Or, les héliconides, quelques pyrides, d'ailleurs, elles ne sont pas là-dedans, mais peu importe, qui ne sont pas poisons du tout, vont s'habiller, si je puis dire, de la même façon, en somme, pour se protéger. Donc il y a un avertissement, c'est une communication qui fait intervenir à la fois la forme et la couleur et qui est faite aux oiseaux. Et le Thyria jacobae, c'est un langage direct. Hein. C'est « ne me touchez pas, parce que je vais vous empoisonner ». Ça s'adresse aux oiseaux. Et c'est la rayure jaune et noire est très efficace, même pour des chenilles qui ne sont pas du tout poisonneuses. Celle-ci l'est. Et le papillon, lui, est rouge. C'est la goutte de sang, hein, vous connaissez probablement ça. Papillon qui est un peu fragile. Et justement là, on en arrive, à cause de la fragilité de tout ça, à quelque chose qui est... Mais quel est notre rôle, à nous, dans la mise en forme de l'espace, confronté à cette extrême complexité de l'information à travers les êtres vivants? À quel moment intervenons-nous, justement? Est-ce que nous sommes dans la justesse? Qu'est-ce que nous devons faire? Une orobanche va se mettre bizarrement attirée par une sécrétion de la plante qui sera sa victime sur les racines d'un sarotamnus, d'un trèfle ou d'une bruyère. Et donc il y a un appel chimique. Cette plante-là, avec laquelle je dis on pourrait peut-être jardiner demain, elle fabrique des cercles. Mais elle ne les fait pas par hasard. C'est une petite piloselle, elle s'appelle Hieracium pilosella ou Lactucella, là, il y a plusieurs Hieracium, toutes émettent une toxine au bout des racines qui chasse les graminées. Ben, c'est intéressant, parce que là, on a plus à faire, on n'a plus besoin du désherbant contre les herbes qui, soi-disant, nous gêneraient. Elle est assez sympathique, elle fait des petites fleurs de composés jaunes. Bref, qu'est-ce que c'est que cette information chimique, vous voyez? Comment nous en servons-nous, éventuellement? Plus connu peut-être, ça c'est pas exactement l'acacia africain qui est en jeu, il est chilien, celui que je vous montre, mais c'est le même genre exactement, épineux, très connu cet exemple-là, de communication entre cette plante et les impalas qui arrivent, qui broutent le feuillage et qui au bout d'un moment reculent parce que les feuilles ont été chargées d'une toxine qu'ils n'aiment pas. Ils vont vers l'acacia qui est plus loin, manque de chance, il est immédiatement toxique. L'acacia d'à côté a été averti par le premier par un gaz éthylène. Et donc tout le groupe d'acacia autour vont immédiatement être chargés en toxines. Les impalas vont beaucoup plus loin, vers un groupe qui n'est pas averti. Et il va se passer le même mécanisme, ce qui préserve évidemment la survie de ces plantes-là. Et quand ils vont revenir un an après ou plus tard, bref, ils les retrouveront avec du feuillage encore, etc. Vous voyez ? Donc ces relations-là sont fondamentales. On en connaît très très peu. Elles existent, à mon avis, partout. Tout communique avec tout. Et je parlais de ces fissures de timidité. Je reviens dessus brièvement. J'arrive pas à tenir les temps. Excusez-moi. Non, c'est comme ça. Hein. Et donc, il s'agit de frondaisons d'arbres de la même espèce qui, à maturité, ne s'interpénètrent pas, ne s'entrecroisent pas, etc., se tiennent à distance. Ça s'appelle une fissure de timidité. Et on ne sait pas pourquoi ces arbres sont timides. On en a repéré une vingtaine ou une trentaine, je ne sais plus, sous les tropiques, il y en a aussi chez nous. Ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Il y a donc une communication entre, bien entendu. Bref, comme ça, toutes les organisations spatiales et les formes de détails des plantes ont quelque chose à voir dans le processus de communication qui nous regarde. La fécondation est directement liée à ça. L'intérieur d'un arôme, vous savez, ce sont les cônes comme ça avec le spat et le spadis. Tout l'appareil sexué, c'est le spadis avec des fleurs femelles stériles, puis des fleurs mâles, puis des fleurs femelles stériles et des fleurs femelles fertiles. L'ensemble emprisonne une série d'insectes. La relation insecte-plante est considérablement riche, diversifiée. Il y a aussi des plantes qui les consomment. Enfin, c'est très complexe, mais ça rentre dans un processus de l'évolution par la communication. Donc, nous avons besoin d'en savoir plus là-dessus. Ce qu'on appelle les cabarets des oiseaux, pas forcément pour les oiseaux qu'il y a de l'eau ici, c'est aussi des pièges pour des petits animaux qui vont se dissoudre et apporter de la nourriture au cardère lui-même. Lequel cardère est ici ? Et toutes ces relations-là sont compliquées et qu'est-ce que nous faisons, nous, pour les préserver et dans notre manière de construire l'espace ? La capacité à s'inventer une nouvelle espèce, ça, c'est une hybridation d'une spartine. Je ne vais pas revenir là-dessus, peut-être que c'est un peu trop long pour le temps qui nous reste, à gagner l'espace à partir de mutations d'espèces nouvelles. La spartine en fait partie. Ça, c'est sur une île qu'on observe depuis maintenant pas très longtemps, vous savez, volcanique, au sud de l'Islande. La capacité générale à la résilience, c'est-à-dire l'adaptation au froid, au chaud, au sec, à tout ça, et pour toutes les espèces, il y a, pour tous les milieux, il y a des espèces possibles, bien sûr. Mais en plus de ça, pour certaines espèces, il y a des amplitudes biologiques qui sont accrues du fait de leur capacité à évaporer quand il le faut ou à restreindre leur consommation quand il le faut. Restreindre la consommation. C'est un sujet. Je termine, hein, je vous assure, par Mons Artou. J'avais laissé une image la dernière fois sur ce parc avec François Navarro regardant des dalles. Il s'agit d'un parc situé donc dans le cœur de la ville, une ville située, elle, entre Grasse et Cannes. Le château triangulaire, c'est une singularité formelle, pour le coup là, rare. Des formes en U, notamment d'une plateforme à partir de laquelle on fait des projections, c'est un espace public. Une grande clairière avec ses formes très très nettes, carrés, triangles, U, etc. Et puis, quelque chose qui ressemble à un semis, c'est un bois. Et là, on est plutôt dans un langage de la dispersion de la lumière qui renvoie au langage de la communication, de l'information, plus que de la construction formelle. Et c'est pourquoi le projet a été construit de cette façon, en limite du bois, pour accéder au bois, puisqu'on n'y allait pas dans ce bois, pour attirer les gens vers le bois, vers ce qui est scintillant et un peu inquiétant, parce que mystérieux. Il y a des seuils, une double lisière qui a été créée, j'en ai évoqué la question la dernière fois, et les formes qui sont représentées ici par des inclusions de bronze dans le béton, avec d'autres symboles. Donc c'est l'usage des symboles hein, ici, qui sont au contraire des pluies, évoquant la pluie, les lumières à l'intérieur de ce bosquet, très beau d'ailleurs, un bosquet de chênes verts en remarquable santé. Donc, il était hors de question pour moi d'aller tracer des chemins là-dedans. Il fallait inciter les gens à y aller, mais rien à construire du tout. Donc voilà comment ça se passe. De temps en temps, il y a ces plots qui sont des blocs monolithes sur lesquels se trouve gravé le nom, un nom français, un nom qui renvoie à un nom de plante. Et là, on fait le lien avec le monde vivant. Par exemple ici, gueule, comme gueule de loup, barbe, comme barbe de Jupiter, et ainsi de suite. Et ce sont des bancs, des fontaines, des lieux comme ça. Le petit jardin où on retrouve toutes ces plantes est situé en bordure vers la rue. Il est pour les enfants ou pas. Et voilà, par exemple, la barbe de Jupiter. Alors, donc, tout ça est étiqueté. Mais il est évidemment en pleine lumière, ce jardin-là. L'image conceptuelle, où on voit ces formes et ce qui pourrait être cette information qui justifie le titre d'aujourd'hui, et la dernière image qui est une artiste qui est venue sur Marie-Ange Guilleminot, qui est une grande artiste, et qui est venue dans ce jardin un jour, je ne le savais pas, et c'est elle qui me l'a envoyé par cette image-là. Elle s'est mise sur la pierre marquée Belle, c'est une très bonne idée, elle est très belle, et ça renvoie à la Belle de Nuit. On pourrait plus renvoyer à la Belle de Jour, mais en l'occurrence c'était la Belle de Nuit. Et voilà, et donc c'était ce lien qu'il y a entre la forme, l'information, puis l'art, qui relie avec la dernière séance. La fois d'après, on envisagera les choses sous un angle différent, lecture de la nature. Merci.